Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
Mais vous avez dit
qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, nous avons les agriculteurs qui, ça y est, remettent un petit coup de pression sur le gouvernement. Ils n'iront pas à l'Elysée finalement demain mardi, ils iront quand même voir Gabriel Attal demain matin. Le ton devrait être assez franc. Et puis à côté de ça, vous avez le fameux accord de libre-échange CETA entre l'Europe et le Canada qui va passer au vote des sénateurs jeudi prochain avec un possible rejet qui ferait beaucoup de bruit. On va voir ça bien sûr tout au long de la soirée. Sinon, nous avons peut-être encore des mauvaises nouvelles concernant Atos. Vous savez qu'Airbus, depuis quelques semaines, négociait le rachat des activités Big Data et cybersécurité d'Atos. Sauf que d'après les informations de Mathieu Pechberti, ça se présente mal. Ça pourrait même tout simplement tomber à l'eau. On verra ça avec Mathieu dans un instant. J'en profite pour vous dire que dans 10 minutes, c'est l'ancien patron d'Airbus, justement Fabrice Brégier. Aujourd'hui à la tête de Réassurance Corps, c'est Fabrice Brégier qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. On parlera tout ça bien sûr avec nos experts qui arrivent à 18h30. Et puis bien sûr, on reviendra sur les nouvelles saillies de Bruno Le Maire qui le répète depuis 24 heures, il faut sortir de l'état providence. Il n'y a rien de nouveau sur le fond, sur ce que dit Bruno Le Maire, mais vous verrez que les syndicats sont de plus en plus irrités par la situation. Voilà le programme non exhaustif, on est ensemble bien sûr jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc attention quand même, les agriculteurs sont de retour. Les syndicats, vous savez, ont annoncé ce week-end qu'ils n'iraient pas finalement demain à l'Elysée comme prévu, même s'ils iront voir Gabriel Attal demain matin. Mais enfin, on a bien compris que le message est très clair pour eux. Tout cela ne va pas assez vite. Pauline Tadevin.
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, juge le ministre de l'Agriculture dans les colonnes du Républicain Lorrain. En déplacement ce lundi dans l'Est, Marc Fesneau assure qu'il entend les impatiences, mais que le gouvernement avance. Ce qui pouvait être fait l'a été, explique-t-il. Mais dès lors qu'on a besoin de changer la loi, on est sur un pas de temps qui ne peut pas être celui des heures ou de la semaine. Réponse aux agriculteurs, notamment au patron de la FNSEA, qui exige que les choses aillent plus vite sur l'élevage, la trésorerie, la simplification ou encore sur les retraites. Le report d'une réforme pour le calcul de la retraite des agriculteurs juste avant le week-end a mis le feu aux poudres. La venue du premier syndicat agricole à l'Elysée ce mardi a été reportée. Il sera quand même reçu dans la matinée avec les jeunes agriculteurs par le chef du gouvernement, en attendant peut-être de reprogrammer une réunion avec le chef de l'État.
Voilà, les agriculteurs donc iront quand même voir Gabriel Attal demain, mais on sent que la colère monte de nouveau du côté des représentants syndicaux. Puis je vous le disais, cette autre actualité en rapport avec le CETA, fameux accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui sera soumis au vote des sénateurs jeudi prochain. Ça risque d'être rejeté et on en parlera bien sûr avec nos experts tout au long de la soirée sur BFM Business. 18h01, le dossier Atos. Ça se complique encore un peu plus. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Alors on se souvient que depuis le début de l'année, Atos négocier avec Airbus qui pourrait lui racheter son activité Big Data et cybersécurité, ce qu'on appelle BDS. Sauf que, d'après vos informations, Mathieu, ce soir, ça se présente mal, à tel point qu'il est possible que ça ne se fasse pas, cette opération, tout simplement.
Oui, exactement. On a eu plusieurs contacts au sein des deux groupes et qui, effectivement, nous expliquent que, de toute façon, ces négociations traînent depuis maintenant 2 mois. Les négociations ont toujours été décrites comme difficiles. Airbus a toujours été, on va dire, prudent pour ceux qui voient le verre à moitié plein et extrêmement réticent pour les autres. Airbus craint d'abord des pertes, en tout cas des fuites de talents, d'ingénieurs importants dans ses activités de cybersécurité. Il craint également sur la rentabilité des supercalculateurs. Vous savez, ces machines, ces ordinateurs extrêmement puissants perdent de l'argent, consomment beaucoup de cash et Airbus a toujours été très réticent à les reprendre en même temps que les activités de cybersécurité. Et Airbus mène depuis maintenant plusieurs semaines des études études extrêmement approfondies et ça semble pas les rassurer. Et ce n'est pas qu'une question de prix, parce qu'on s'est toujours dit effectivement, les acteurs du dossier se sont toujours effectivement méfiés de ces sons de cloche en disant que c'était un jeu de négociation, mais selon une source proche du dossier, nous explique que le dossier n'avance pas du tout dans le bon sens et que ce n'est même plus une question de prix. L'air de dire que les négociations sont en train de déraper. Alors est-ce qu'il y aura un énième rebondissement dans les jours à venir? Atos doit publier ses résultats mercredi et faire un point sur ses négos. Est-ce qu'elles vont être relancées ou prolongées pour espérer un ultime accord, ou est-ce qu'elles vont totalement échouer? C'est la grande question, mais en tout cas ça semble mal parti. Si jamais Atos ne parvenait pas à vendre ses activités, on risque de se diriger fortement vers une procédure de sauvegarde judiciaire. Je rappelle qu'Atos est aujourd'hui placé sous l'égide d'un mandataire ad hoc qui est Hélène Bourboulou et qui va devoir trancher sur l'avenir d'Atos dans les semaines à venir.
Donc si on se résume, Big Data et cybersécurité, Airbus, c'est pas prêt de se faire, peut-être pas.
C'est
et du côté
parti.
De l'infogérance, on rappelle que Daniel Kretinsky s'est retiré du jeu. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a plus de point de chute pour aucune des activités.
Si rien ne se passe, on risque fortement de se diriger vers, encore une fois, vers une procédure de sauvegarde, ce qui consisterait à une forme de démantèlement d'Atos.
Bon, bah voilà, Atos, toujours des informations qui nous parviennent et qu'on commente. Et puis je vous disais, Fabrice Brégier, ex-patron d'Airbus, aujourd'hui à la tête du Reassurance Corps, qui sera avec Edwige Chevrillon, qui lui posera peut-être une question sur ce dossier. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci,
Mathieu Pechberti, avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, on voulait aussi vous dire un mot de ces chiffres qui nous confirment qu'on manque. Et qu'on va manquer encore plus d'ingénieurs dans les prochaines années en France, sauf que peut-être avions-nous quand même sous-estimé l'ampleur du phénomène. Jean-Baptiste Huette nous explique tout ça.
Mais où sont les ingénieurs? Le Syntec Ingénierie alerte, 80 000 nouveaux emplois sont à pourvoir d'ici 2030, seulement, faute de professionnels formés, 20 000 postes sont susceptibles de rester vacants. Ceci au moment même où des secteurs comme la décarbonation industrielle et l'intelligence artificielle sont en pleine expansion. Hydrogène, nucléaire, algorithmes, cybersécurité, en cause un vivier d'étudiants insuffisant et une offre de formation incomplète. Une pénurie de talents, explique le Syntec, qui pourrait représenter pour le seul secteur de la construction, jusqu'à 4,2 milliards d'euros de manque à gagner. Alors, quelle piste pour s'en sortir? Le Syntec veut davantage promouvoir les métiers d'ingénieur, en particulier au sein des établissements scolaires, et surtout élargir, coûte que coûte, les viviers de recrutement. Seuls 30% des ingénieurs diplômés chaque année sont des femmes et peu sont issus de milieux défavorisés.
La France qui manque d'ingénieurs, selon le Syntec Ingénierie. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. Autre secteur qui manque de monde, ça aussi on en parle depuis un instant, depuis un moment, c'est l'hôtellerie-restauration. Sauf que vous allez voir qu'à quelques mois des Jeux Olympiques, certains ont trouvé le moyen de tourner cette histoire à leur avantage. Ils vont se mettre en statut auto-entrepreneur pour mieux négocier les difficultés du métier pendant les Jeux. Hélène Cornet nous raconte ça.
Impossible de faire du télétravail ou de choisir ses horaires, les salariés de l'hôtellerie-restauration ont trouvé la parade pour assouplir leurs conditions de travail. Ils se mettent à leur compte via le régime de l'auto-entrepreneur, une solution pour concilier vie professionnelle et vie familiale et surtout éviter la fameuse coupure de la mi-journée, véritable repoussoir. Autre avantage pour ces serveurs indépendants, cela diminue un peu les charges sociales. Les patrons n'ont plus vraiment le choix, ils étaient 5 à 10% à y avoir recours avant Covid, ils sont 1 sur 3 aujourd'hui. C'est pourtant interdit par la loi. La DGCCRF a beau multiplier les contrôles et les mises en demeure, le régime d'auto-entrepreneur s'est imposé dans les salles et cuisines des restaurants. Le patronat tente actuellement un intense lobbying pour convaincre le gouvernement d'assouplir les règles, du moins durant la période des Jeux Olympiques, afin de permettre une pleine activité et se montrer à la hauteur de l'événement.
Toujours 200 000 postes vacants dans l'hôtellerie-restauration, et c'est un phénomène qu'on observe depuis un certain temps, bien avant le Covid en l'occurrence. Et puis alors, puisqu'on parle hôtellerie-restauration, il est un peu plus de 18h, il est en train de tomber le palmarès du Michelin. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir.
Il y a des centaines de chefs qui attendent de savoir s'ils vont gagner une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Apparemment ça commence à tomber, mais on donnera tout ça dans un instant. Ce qu'on voulait dire et rappeler une fois de plus, c'est que gagner ou perdre une étoile au Michelin, économiquement parlant, c'est un véritable enjeu, vraiment, Alexandra.
Ah, mais complètement. Alors, je précise juste que les rétrogradations ont, elles, déjà été annoncées bien en amont pour ne pas gâcher la fête, figurez-vous. Car les chiffres sont très clairs. Une étoile Michelin entraîne des répercussions directes dans le bilan financier d'un établissement. Obtenir le précieux sésame va dynamiser le chiffre d'affaires quand même de 80% en moyenne, mais sur 3 ans. Les prix augmentent en effet de 25 à 30% après l'obtention de l'étoile. Le carnet de réservation se remplit évidemment à vitesse grand V et les investisseurs viennent dîner. À l'inverse, quand un restaurant perd, lui, une étoile, il voit sa rentabilité passer de 3% à moins 2%. Taïwan, par exemple, qui a perdu sa 3e étoile en 2007, n'a pas réussi à effectuer les investissements nécessaires pour garder le niveau. Il a perdu la 2e en 2019 dans la foulée. Car pour tenter de toucher les étoiles, Guillaume, il faut investir, et parfois massivement. Le guide rouge a beau jurer que ne noter que le contenu des assiettes, le jugement des critiques est souvent influencé par la situation géographique d'un restaurant et le standing de ses installations, évidemment. Accrocher une étoile supplémentaire, c'est environ 1,5 million d'euros d'actifs immobilisés et souvent autant de prêts bancaires à rembourser.
Il ne faut pas se planter.
Non, il ne faut pas se planter.
Exactement. Voilà ce palmarès du Michelin qui va être dévoilé. On essaiera de vous donner, si on les a, quelques noms de restaurants qui ont glané ce soir une étoile éventuellement. Merci beaucoup Alexandra. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, on retrouve notre chef à nous, Étienne Brack, depuis Euronext à la Défense. Bonsoir mon cher Étienne, on a terminé en petite baisse ce lundi.
Bonsoir.
Sur l'indice parisien.
Une petite pause après les records de la semaine dernière. Faut pas oublier que le CAC 40 sort de 4 séances dans le vert, de 2 semaines en territoire positif. Donc il souffle un petit peu, moins 0,2% sous les 8200 points, 8148 points, avant la fête qui est attendue au tournant ce mercredi. Bien sûr, sur le calendrier des baisses de taux, chaque mot sera comme toujours scruté. À l'inverse, ça se passe très bien à Wall Street, grâce notamment à des rumeurs de Bloomberg qui évoquent Apple et Alphabet pourraient collaborer autour de Gemini, le moteur d'intelligence artificielle d'Alphabet. Donc ça propulse le Nasdaq qui gagne quasiment 1%. Du côté des valeurs aujourd'hui à la Bourse de Paris, à noter qu'Alstom est sorti du CAC 40, c'était aujourd'hui la date effective. À l'inverse, Accor revient dans l'indice phare, Accor qui perd 0,3%, mais Alstom qui est la plus forte hausse du SBF 120, plus 6%, avec notamment Deutsche Bank qui explique que le pire est peut-être passé sur la valeur, 13,10€. Et puis à noter des dégagements sur le secteur des EHPAD avec Orpea qui perd quasiment 6% ce soir à la clôture, le tout donc dans une tendance d'attentisme, moins 0,2% pour l'indice parisien sous les 8002 à 8148 points.
Coucou Étienne Brack à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui est en train de reculer ou d'avancer, on va le voir dans un instant sur le petit tableau. Voilà, plus 0,37%, 38 855 points. L'indice Nasdaq de son côté est en hausse également, plus 1%, 16 132 points. 18h10, Fabrice Brégier, le président du conseil d'administration de Score, et l'invité d'Eddie Chevrillon dans un instant. Très bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Fabrice Brégier, qui est aujourd'hui président du conseil d'administration du réassureur, le sixième réassureur mondial, Score. Bonsoir Fabrice Brégier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi du RS, on en dira un mot forcément, président de Palantir Technologies pour la France. On sait que Palantir, c'est un groupe américain qui est spécialisé dans le big data, l'exploitation des données. Très important pour beaucoup, très important aussi pour Score. Vous nous direz pourquoi vous avez signé, est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit d'intérêts quand même. Vous êtes l'ancien patron d'Airbus. Vous avez été, je crois, plus de 10 ans chez Airbus, 12 ans. Vous avez été 6 ans le CEO d'Airbus. C'est comme ça qu'on vous recevait ici souvent sur BFM Business. Vous avez dû entendre Mathieu Pechberti qui dit que le dossier Airbus-Atos est un peu victime de rivalités internes entre le président allemand qui dit non, je veux surtout pas d'Atos, c'est la cybersécurité des big data, et puis Guillaume Faury, un peu poussé par Bercy, qui serait plutôt favorable. Vous avez connu ça lorsque vous étiez à la tête d'Airbus. Votre président s'appelait Thomas Enders et vous avez eu quelques différents, on peut dire ça comme ça.
Finalement, assez peu sur le plan stratégique, puisque moi, je m'occupais de l'activité avions commerciaux et on a fait une très belle opération en récupérant la famille des avions bombardiers qui s'appelle l'Airbus 220 et on était d'accord sur ce point.
Oui, sur la cybersécurité, c'est un enjeu très important. Vous connaissez ce domaine par cœur, Fabrice Brégé. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à Airbus?
Airbus, dans l'activité de défense, a une activité de cybersécurité. Déjà et donc, c'est assez logique qu'il regarde. Ensuite, les négociations, visiblement, achoppent dans le cadre de ce qu'on appelle la due diligence. Ça, c'est la vie des affaires. Et pour faire des acquisitions de cette nature, eh bien, il faut que la direction générale et le conseil d'administration soient alignés.
Oui. Sur quoi peut porter le désaccord? Même si vous connaissez
peut-être
pas,
sur le niveau de risque, sur le niveau de prix. Moi, ce que je sais, c'est qu'Atos a une bonne réputation dans le domaine de la cyber, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ses métiers, et qu'il est extrêmement important de trouver une solution nationale ou au moins européenne pour accueillir l'activité cyber qui est véritablement le cœur stratégique du Big Data.
Oui, c'est clair, évidemment. Tiens, je vous disais, vous êtes à la fois patron de Score, enfin le directeur général, l'exécutif, c'est Thierry Léger, hein, bien sûr. Vous êtes aussi patron de Palantir pour la France et vous le restez. Alors, et puis là-dessus, il y a un accord qui est signé. Score a choisi Palantir pour gérer ses datas et c'est l'exploitation de ses données. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit conflit d'intérêts, comme je le disais?
Je ne vais pas commencer la présidence de Score, qui s'est déroulée en avance de phase, hein, vous le savez. C'est pourquoi j'ai les deux casquettes, hein, qui sont tout à fait compatibles, puisque la présidence de Score est non exécutive. Hein, comme vous l'avez rappelé, il y a un directeur général qui est là pour travailler 24 heures sur 24, avec un conflit d'intérêts, vous imaginez bien. Ce choix est un choix des équipes de management et moi je me suis écarté des discussions et des négociations, évidemment.
Mais il y en a peut-être d'autres qui font ça dans du big data et de l'exploitation des données, même si la réputation de Palantir est très bonne.
La direction générale de Score a choisi Palantir au terme d'un processus compétitif, évidemment. Hein. Ce que je peux dire, c'est que ce choix a été fait lorsque je n'étais pas président, je n'étais que modeste administrateur au conseil d'administration, sans aucune influence sur la direction générale, et qu'ensuite, le nouveau directeur général, venant de Suisse, un grand réassureur mondial, a confirmé ce choix. Pourquoi ? Parce que Suisse a un grand partenariat avec Palantir depuis de nombreuses années. Donc, d'accord, il a regardé le deal, les conditions, et l'a approuvé. Donc, c'est véritablement une décision de la direction générale. Moi, je peux seulement vous dire que je me réjouis que les équipes de management aient choisi ce qui m'apparaît comme la meilleure solution au monde pour le big data et l'intelligence artificielle.
Oui, et on verra dans un instant, après on va quand même parler du Score, en quoi l'intelligence artificielle, pour un réassureur, c'est vraiment au cœur, ça devient stratégique pour beaucoup d'entreprises, mais particulièrement dans votre activité. Vous étiez administrateur de Score en partir le 2 février 2019. Et en fait, vous êtes devenu le PDG, président du conseil d'administration, le 25 juin 2023, après le décès de Denis Kessler, le 9 juin dernier. Lorsque vous regardez le marché de la réassurance et qu'on regarde Score, vous avez publié vos résultats maintenant, c'était la semaine dernière, très bons résultats. L'année 2022 avait été difficile, 2023 se présente très bien, enfin année record, et 2024 se présente bien aussi. Pourtant, on a l'impression qu'il y a des aléas climatiques qui sont de plus en plus forts, qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des tsunamis, qu'il y a des pluies diluviennes, qu'il y a des guerres un peu en Ukraine, dans le Moyen-Orient, et vous nous dites maintenant 2024 se présente bien. Comment vous expliquez tout ça?
Vous avez raison. Ça, c'est en fait pas contradictoire du tout. Pourquoi ? D'abord, le marché de Score, c'est effectivement assurer des risques. Et comme vous l'avez dit, des risques qui sont parfois extrêmes. Les risques climatiques, les catastrophes naturelles en sont. Dans ces conditions, s'il n'y avait pas cette augmentation des risques, Score ne pourrait pas croître. Donc, la tendance du marché, c'est un marché en croissance pour assurer davantage de risques. On parlait de cybersécurité. Est-ce que vous savez que pour l'instant, seulement 10% du risque est assuré
en cyber.
Donc, le potentiel est énorme. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu d'énormes années difficiles avec le Covid, avec les catastrophes naturelles, avec des taux d'intérêt qui permettaient l'argent facile. Tout ça est derrière nous et on est dans un cycle porteur sur le marché. Et c'est pour ça que SCOR a, avec ses collègues et ses compétiteurs, de bonnes performances en 2023, que ça va sans doute se poursuivre au moins sur 2 ans. Et d'autre part, nous avons restructuré l'équipe de management avec un nouveau directeur général qui a 30 ans d'expérience dans nos métiers, et nous réduisons nos risques en... finalement les diversifiant au maximum.
Oui, vous avez, on reviendra sur le management, parce que évidemment en plus il y avait des pratiques sociales un peu particulières, on va dire, chez SCOR, et vous y avez mis un terme, ou du moins à Thierry Léger. Donc il y avait une perte historique en 2022, 300 millions, là un record, un bénéfice record, 812 millions. Vous nous dites, c'est parce que tout ce qui s'est passé là, en 2023, c'est bon pour le réassureur. Moi j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup d'assureurs qui disaient on ne peut plus assurer les risques climatiques, on ne peut plus assurer les collectivités locales, on ne peut plus assurer celui qui s'est fait inonder sa maison 2-3 fois ou qui a des fissures. Donc c'est là où c'est un petit peu, enfin on a du mal à saisir. Faut détailler, comme on dit Fabrice Brugier.
Mais absolument, notre métier de réassureur, c'est finalement de prendre une partie du risque porté par les compagnies d'assurance, généralement. Et on peut le prendre soit en prenant une partie de leur contrat, soit en prenant une tranche de risque particulière. Par exemple, il y a un tremblement de terre. Ben, on va assurer jusqu'à une certaine limite ou au-delà d'une limite. Et qu'est-ce que l'on sait faire ? Justement, en étant soutenu par l'exploitation des données, on sait finalement... mutualiser ce risque, le répartir du point de vue géographique et avoir une couverture que des compagnies d'assurance plus locales ne peuvent pas apporter. C'est ça qu'on apporte au marché. Bien évidemment, si on maîtrise pas ce risque, et c'est pour ça que notre raison d'être, c'est combiner l'art et la science du risque, si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas un bon réassureur. Et SCOR a des équipes formidables pour ça, qu'il fallait réaligner, remotiver et faire en sorte qu'elles donnent le maximum. C'est ce qui est en train d'être fait.
Qu'est-ce qui vous a coûté le plus cher en 2023 ?
Alors, le Covid a encore beaucoup pesé, hein, puisqu'il y a un temps de latence.
Combien ?
Je pense que l'ordre de grandeur du milliard, en plus ou en moins, est un bon ordre de grandeur pour un assureur comme SCOR. Mmh. Vous voyez, donc c'est vraiment extrêmement sérieux. Et beaucoup de catastrophes naturelles.
Oui, bien sûr.
Aussi des risques sur la responsabilité civile aux États-Unis qui a dérivé, avec beaucoup de procès qui peuvent coûter très cher aux assureurs et donc aux réassureurs. Donc il s'agit de maîtriser ces risques, de les plafonner, de les diversifier, mais on a un vrai rôle sociétal, Edwige, puisque sans nous, sans les compagnies d'assurance,
C'est clair,
il n'y a pas d'économie. En revanche, si vous avez des...
Je suis d'accord avec vous, le problème c'est qu'on voit des assureurs qui nous disent, écoutez, là ça coûte trop cher, même au niveau de la fédération, qui dit,
ils ont raison.
Là ça coûte trop cher, on se retire. Non, c'est pas leur...
Je vais donner un exemple qui n'est pas français. Catastrophe naturelle en Floride, maintenant c'est très dur, même avec des hausses de prix substantielles, de les assurer. Parce qu'il y a trop d'événements.
C'est anormal, non ?
Ce n'est pas anormal, il faut que le marché se régule en fonction du niveau
public.
De risque.
Il faut un assureur public.
Il y a des domaines, le terrorisme, l'état de guerre, où les États doivent intervenir.
Oui.
Je pense même que pendant le Covid, entre nous, on ne peut pas nous assurer le produit intérieur brut si un État décide de bloquer l'économie pour des raisons sanitaires. Mais ce sont des cas extrêmes. Je pense que la réassurance et les assureurs ont le devoir d'assurer de plus en plus, même si les primes dans certains domaines peuvent augmenter.
Qu'est-ce qui va devenir pour vous, là, vous nous avez expliqué, par exemple, le Covid, les aléas climatiques. Est-ce que, dans les prochaines années, je ne sais pas à quelle échéance, vous nous le dire, le risque cyber va devenir un des principaux risques ?
C'est déjà un des risques principaux. Et pourquoi il est mal assuré ?
Vous dites que c'était que 10% assuré.
Voilà. Pourquoi ? Parce que ce risque peut être endémique. Il peut toucher le monde entier. Donc là, aucune compagnie d'assurance, aucun réassureur ne peut garantir ce risque. Et ce risque est très évolutif. Donc, il faut que tout ça se mette en place. Et sur plusieurs années, je pense qu'on pourra avoir des couvertures.
Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour le risque cyber ?
Il faut, je pense, avoir des partenaires. On parlait d'Atos, mais pour les PME, pour les entités publiques qui permettent d'avoir un minimum de garantie, de protection contre le risque cyber. Ce n'est pas du tout le cas pour l'instant.
Donc c'est le
premier point.
Ouais.
Et ensuite, il faut peut-être avoir un dialogue avec les pouvoirs publics pour voir quel niveau de risque peut être assuré par le monde de l'entreprise et ce qui est peu et qui doit, dans le cas d'une d'une pandémie de ce risque, hein, d'une endémie qui doit être couvert par les pouvoirs publics, par exemple.
On sait qu'il y a eu des manœuvres en tout genre, tentatives de déstabilisation de la réassurance avec Thierry Durrès de Covéa qui voulait prendre le contrôle de SCOR. Finalement, il a pris le contrôle de Partneret. Et là, c'est des gens, Adrien Couret, pour ne pas le citer, d'AMA, qui a essayé de déstabiliser ce deal, etc. La question est simple, c'est est-ce qu'un réassureur aujourd'hui peut rester indépendant?
Je pense que c'est l'ADN de SCOR. SCOR a été indépendant. Oui, mais on est en croissance. On a 18% de retour sur nos capitaux propres. On a des perspectives de croissance de 9% par an. Oui. Donc, je pense qu'on a les moyens de rester indépendant. Ça ne veut pas dire qu'on n'envisage pas, le cas échéant, de regarder ce qui se passe sur le marché. Mais notre plan A, et c'est le seul, c'est une croissance profitable, hein, dans notre plan stratégique à 3 ans, jusqu'à fin 2026, endogène. Oui. On a cette capacité, on a toutes les ressources en interne pour maîtriser notre métier.
C'est ça, mais peut-être à terme, on peut dire que le métier de réassureur indépendant va peut-être sera plus compliqué, enfin ça sera moins logique plutôt.
C'est un métier, je vous le confirme, oui, extrêmement compliqué, oui, hein, que je découvre au fur et à mesure. Vous l'avez dit, on est sixième mondial, mais du point de vue des marques, de l'image de marque de SCOR, on fait partie des 4 ou 5 meilleurs.
Oui. Je disais des stabilisations en série dans la réassurance avec notamment, on a compris que c'est une affaire qui met en cause plusieurs grands patrons, notamment Adrien Couret, le patron d'AMA, avec pour bloquer un deal cette fois-ci que Covéa, qui voulait racheter SCOR, en fait rachète aux Agnelli Partneret. Il y a des mises en examen, Libération a révélé tout ça, c'était un feuilleton absolument incroyable. On a l'impression que l'assurance est un métier sérieux, absolument pas. Bref, Adrien Couret, il est le président du comité administrateur chez vous, il est président du comité des risques. Est-ce qu'il peut le rester malgré sa mise en examen?
Alors, d'abord, moi j'ai appris dans la presse ce que vous racontez, puisque SCOR ne fait pas partie prenante, n'est pas partie prenante.
Non, pour une fois, c'était l'épisode d'avant, le feuilleton d'avant.
Adrien est un des piliers du conseil d'administration.
Oui, bien sûr, qu'on connaît bien ici, en plus.
Nous avons étudié la situation au niveau du comité de nomination et de gouvernance, et Adrien n'est pas mis en examen au titre de cette fonction chez SCOR. Je ne veux pas faire le parallèle avec le gouvernement, mais certains mis en examen ont été nommés ministres. Hein, donc, quand on est mis en examen, on est réputé innocent. C'est ce que l'on pense d'Adrien Couret.
Ouais. Un mot avant de parler d'IA, même s'il nous reste peu de temps. Il y avait visiblement, là, c'est nos confrères les Échos qui nous a dévoilé ça, des pratiques sociales un peu du passé chez SCOR, où Denis Kessler avait mis en place un système de partnership où certains avaient le droit d'aller manger au sixième étage dans le restaurant le plus chic, l'autre c'était au sous-sol. Il y avait des actions nominatives, d'autres ne l'étaient pas. Enfin bon, bref, c'est incroyable, non? On avait découvert ça.
Le principe est bon, puisque la ressource de SCOR, c'est les hommes et les femmes, c'est pas les usines, hein, c'est pas la technologie. Motiver les cadres les plus méritants, c'est une bonne chose. Mmh. Ensuite, vous avez complètement raison, ce partnership était devenu un petit peu un entre-soi. Et ouais. Thierry Léger, avec mon soutien, a souhaité le remettre à plat. Ça a été fait, ça a été présenté. Il est remplacé par quelque chose, hein, bien évidemment, hein, qui est mis en place par la direction et qui a été fait avec le soutien unanime des syndicats et aussi du conseil d'administration.
Et vous avez pris les mêmes, ceux qui appartenaient à cette caste, entre guillemets?
Pas tous,
non,
bien
pas
sûr.
Tous, non.
Mais c'est pas parce qu'ils faisaient partie du partenariat qu'ils étaient mauvais. Hein. Ouais. La grande majorité était bon. Et puis, il faut... Vous savez, dans les réorganisations, tous les 5 ans, il faut changer.
Et là, vous avez donné un coup de balai. Enfin, Thierry Léger, il a donné un petit coup de balai dans le top management, non, de SCOR.
Thierry Léger souhaite une entreprise plus agile et qui parle plus des clients.
Donc, il a viré...
Voilà, notre but, c'est de parler des clients et de maîtriser nos risques.
Oui, donc il a simplifié la structure de management.
Il l'a simplifié... avec des prises de décision qui seront faites au niveau régional, mais dans un cadre complètement contrôlé et structuré au niveau du groupe.
Un mot, parce que c'est quand même quelque chose, alors c'est peut-être le Landerneau parisien, mais enfin quand même qui concerne le monde de l'édition, parce que celle qui est dirigée était un peu une star de l'édition, Muriel Meyer. La vente du Mans 6, c'est un groupe d'édition qui a été avec PUF, que sais-je, qui avait racheté Denis Kessler, et avec évidemment les éditions de l'Observatoire. voir, c'est à vendre. Vous en êtes où dans le processus? Est-ce que vous avez de nombreuses marques d'intérêt ou pas? Et combien?
On est très fiers du Men's 6. Oui, la 9e maison d'édition,
oui.
Elle a gagné le prix Interallié l'année dernière. Hein. C'est une très belle marque. Cela étant, on est 9e, 10e, je crois, hein, parmi les éditeurs français. On n'a pas la taille critique. Ça n'est pas le cœur de métier de Score.
Non, ça,
donc il faut ancrer cette entreprise auprès d'un des grands acteurs. Et l'ensemble des grands acteurs du monde de l'édition ont montré leur intérêt. Ils ont tous répondu.
Oui.
Donc, la consultation est en cours.
Oui, mais la réponse, ça sera pour quand?
Je pense qu'à l'été, on y verra plus clair.
À l'été, oui.
Pour une prise de décision.
C'est long.
C'est assez rapide, non.
Oui. Et le prix, c'est 20 millions, mais pourtant, ça perd pas mal d'argent, non?
Le prix, on regardera en fonction du prix et du projet industriel.
Oui, mais le prix pour l'instant proposé, c'est 20 millions?
Pour l'instant, on n'en est pas là, on n'a pas encore reçu les offres.
D'accord.
On a reçu des sollicitations. Pour
Les maisons. Merci beaucoup, Fabrice Brégier. C'est vrai que beaucoup de questions autour de Score, mais en tous les cas, Score qui entame 2024 sous de bons auspices. Merci beaucoup.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h34 sur BFM Business. Bienvenue dans les experts du soir. Thomas Asportas, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Le Chypre, bonsoir.
Bonsoir.
Edwige Chevrillon, eh bien, vous avez eu ce que vous avez voulu, puisque Fabrice Brégier, qui était en face de vous
il y a quelques instants. Oui, voilà. Fabrice Brégier, je vous le confirme.
Non, mais enfin, une petite sortie surtout, enfin, avis personnel, en tout cas, de sa part, lui qui est aujourd'hui à la tête de Score, mais qui a dirigé Airbus pendant 6 ans, au moment où l'ambiance est plutôt très électrique entre Atos et Airbus, il vous a donné un avis personnel.
Ouais, c'est-à-dire que lui, il a un peu connu ça, même s'il dit que maintenant, tout s'est bien passé, on s'est bien sauvé bien des tensions, parce qu'en fait, il était comme Guillaume Faury aujourd'hui, du reste qui lui a succédé, il était CEO d'Airbus pendant 6 ans.
Oui.
Et puis, il avait un président qui aujourd'hui s'appelle René Oberman. Et à l'époque, c'était Thomas Anders.
Oui.
Donc, c'était déjà un peu une guerre franco-allemande sur certains sujets. Et il a dit, là, visiblement, ils ne sont pas tellement d'accord sur le niveau de risque à propos de faut-il ou pas racheter la filiale cyber de Atos et les big data, au niveau de risque et puis niveau de prix. Donc, point de vue là, visiblement, les Allemands, ils font toujours plus attention au prix.
Oui, mais au-delà du prix, ce que Mathieu Pechberti, en tout cas, expliquait chez nous, c'est que ça devient un problème de confiance. Et il faut être clair, si les négociations échouent, ça va précipiter Atos au bord du gouffre.
Il y est déjà, moi ce que j'ai envie de dire, il est déjà au bord du gouffre. Donc,
par ailleurs, en ce qui concerne l'infogérance, Kretinsky s'est retiré du jeu pour l'instant. Donc, il n'y a plus de point de chute pour aucune des activités pour l'instant.
C'est toute la difficulté. Et puis maintenant, il faut faire face aux banques. Atos présente ses chiffres, je crois, mercredi de mémoire. Ouais. Et donc là, on va voir si tout petit paquet qui reste financier va être complètement englouti. À ce moment-là, il y a une procédure de sauvegarde qui devra s'ouvrir.
Un mot de Score. C'est quand même le patron de Score qui est venu ce soir, qui a succédé à Denis Kessler, bien sûr. Encore mesurer l'étendue du potentiel de ce marché de la réassurance, notamment lorsqu'il parle de cybersécurité. Il nous dit seulement 10% du risque cyber seulement est assuré à ce jour.
Il dit que ça va vraiment devenir un des risques principaux, même si c'est déjà le cas. La seule chose, c'est qu'il y a peu d'entreprises, peu de gens qui soient assurés, ou d'hôpitaux, qui soient assurés sur le risque cyber. Ouais. Et donc, c'est sans doute un des risques qui va flamber. Intéressant, c'est de voir qu'en 2023, je lui demandais qu'est-ce qui a été les plus importants risques. C'était notamment la responsabilité civile aux États-Unis. Donc, ça va venir chez nous aussi.
Eh oui, ça, c'est sûr. Ça vous inquiète, Emmanuel Le Chypre ?
Non, enfin, ça m'inquiète. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un secteur qui, de toute façon, trouve toujours des nouveaux relais de croissance. Il y a des activités anciennes qui vont disparaître. Et le problème, c'est qu'on est quand même confronté à des risques à assurer qui sont de plus en plus coûteux et de plus en plus importants. Et donc, quand vous êtes sur le fond, sur une tendance à la démutualisation des risques, parce que c'est quand même ça le cœur de base du métier de l'assurance,
absolument,
qui est de mutualiser les risques, à l'heure où finalement on est capable d'individualiser de plus en plus les risques, il y a des marchés qui vont quand même être en perte de vitesse. Alors oui, je veux bien la cybersécurité, mais c'est des très 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 gros risques.
Oui, et par exemple aussi les épidémies. Il disait que par exemple pour Score en 2023, le risque Covid, parce que ça s'est déporté, un milliard d'euros. Et donc, puis notamment les aléas climatiques, les tempêtes. Et là, il disait, mais les assureurs, ils ne peuvent pas tout. Il y a des risques qu'on ne pourra plus assurer. Je disais, ben, c'est quand même le
multiplier. Ou alors, des primes démultipliées,
mais...
votre prime démultipliée.
Oui, mais c'est ça qui est.
Non, mais de la même manière que sur le réchauffement climatique, un monde à plus 4 degrés, même plus 3 degrés, on ne sait pas assurer aujourd'hui, Emmanuel Lechypre.
Non. Non, mais le problème, c'est qu'un risque n'est plus un risque quand il frappe tout le monde.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que.
Ouais, quand il est certain.
Quand il est certain. Ouais, c'est-à-dire
ou quasi certain.
Au moment du Covid, quand tout était à l'arrêt, c'est un peu comme si tous les automobilistes de France avaient un accident au même moment.
Oui.
Et voilà.
Faillite générale de l'assureur.
Et ça, on ne peut pas. Voilà.
On peut pas l'assurer.
Ça, c'est des risques, effectivement, c'est des aléas qu'un assureur ne peut pas assurer.
Voilà donc pour Fabrice Brégier, président du conseil d'administration de SCOR, qui était avec nous, avec Edwige, tout à l'heure. Bruno Le Maire dans tout ça, alors?
Ah ben, la grande question qu'on se pose ce soir, c'est
est-ce qu'on se... la dette publique française?
Oui, exactement. Alors, est-ce qu'on se dirige vers la fin de l'État-providence en France? C'est la question qu'on peut se poser après avoir écouté les propos de Bruno Le Maire il y a 24 heures. Ça a suscité beaucoup de commentaires. Le ministre de l'Économie le répète, il faut reprendre la maîtrise du système.
Il est très... cru dans ses propos et dit mettre fin à l'État-providence. Enfin, il l'a encore dit ce matin à la radio, ça ne veut pas dire détricoter massivement tout ce qui va avec. Écoutez Bruno Le Maire ce matin.
Je crois en État qui protège. Je crois à notre modèle social. Je crois à l'hôpital public. Je crois à l'école publique. Je crois à la nécessité de protéger les plus faibles. Je crois qu'il serait bon, on rembourse aujourd'hui les fauteuils roulants. Je pense qu'il serait bon de rembourser tous les fauteuils roulants de ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir des fauteuils qui sont faits sur mesure et qui vont coûter 6 000, 7 000, 8 000 euros. Voilà ce à quoi je crois. Mmh. En revanche, je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. Quand nous mettons en place, avec le président de la République et le Premier ministre, un bouclier de protection tarifaire contre la flambée des prix du gaz et l'électricité, le jour où la flambée des prix du gaz et l'électricité a fini, eh bien on retire ces aides. C'est ça la différence entre un État providence qui accumule les dépenses et qui ne revient jamais dessus. D'ailleurs, aucune opposition n'a voulu revenir sur le bouclier tarifaire, sur le gaz ou sur l'électricité, là où nous avons pris la responsabilité de le retirer, et un État protecteur qui, lui, protège quand c'est nécessaire, face au Covid, face à l'inflation, et je suis fier de la protection que nous avons portée à ce moment-là, et lorsque la situation revient à la normale, nous rétablissons les comptes pour que l'État puisse continuer à vous protéger.
Alors, rétablir les comptes publics, dit-il, on va le faire sereinement, fermement et sans rigueur. C'est possible, Thomas Asportas, de le faire sans rigueur?
Oui, bah, tout dépend de ce qu'on appelle rigueur. C'est-à-dire qu'effectivement, la feuille de route, c'est de dire qu'en gros, on doit faire 50 milliards d'euros d'économies. En tout cas, c'est ce que dit la Cour des comptes d'ici à 2027.
Oui, il n'est pas vraiment d'accord avec ce chiffre de 50 milliards.
Bruno Le Maire?
Ouais.
Non, il ne s'est pas prononcé sur
ce chiffre.
Il a dit
30,
en tout cas qu'on devait faire 20 milliards l'an prochain.
Oui. Voilà, c'est ça, 20 plus 30 ensuite, jusqu'à la fin du quinquennat.
Ce qui est sûr, c'est que, quelles que soient les dizaines de milliards, il faut les comparer aux 1 600 milliards de dépenses publiques. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'austérité? Oui, comparé à ce qu'on a fait jusqu'à présent.
On n'a jamais su faire, en tout cas.
Voilà, c'est d'austérité. Oui, c'est sûr que 50 milliards, c'est austère comparé à zéro. Maintenant, comparé à 1 600, c'est tout relatif. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette sortie, c'est que, donc en gros, effectivement, il dit on n'a plus les moyens de l'État-providence. Il y a de plus en plus de prestations sociales à financer par de moins en moins de cotisants. Donc l'équation économique, elle ne marche plus. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut en finir avec ce modèle social parce qu'il anesthésie la France. Il dit en gros, si on a autant de chômage dans le pays, c'est parce qu'on est addict à la dépense sociale. Et il donne l'exemple de l'assurance chômage. Il dit il faut arrêter parce que ça coûte trop cher, mais il faut aussi arrêter parce que quelque part, le modèle social est trop protecteur, il n'incite pas assez les gens à retrouver du travail. Et si on durcissait encore une fois, comme le gouvernement s'apprête à le faire, peut-être dès le 26 mars, le jour où les comptes publics vont être annoncés par l'INSEE, on aurait un plein emploi à 5% comme ailleurs en Europe et pas 7% comme chez nous. C'est ça les deux motifs. Il y a la raison financière, mais il y a aussi la raison d'activité économique et de mouvement dans le pays.
Oui, mais alors, pardon, qui était ministre de l'économie et des finances lors du premier quinquennat?
Lui, mais alors après, ce qu'il vous dit aussi, c'est qu'il y a déjà eu 3 réformes de l'assurance chômage et que le chômage est passé de 9 à 7. Si maintenant on veut passer de 7 à 5, et ben il va falloir encore serrer les vis d'un cran.
Il n'y a rien de nouveau fondamentalement.
Et qu'il avait réduit quand même largement les déficits dans le premier quinquennat, parce que Bruno Le Maire.
Largement. Oui, il avait commencé. Il avait commencé. Il avait commencé à le faire. Il y a pendant 2 ans, 2017-2019, on était repassé sous les
3%. C'est important, on est dépassé sous les 3%.
Ah, mais bien sûr.
Comme c'est l'objectif.
Bien sûr que c'est important. Mais là, c'est sans commune mesure avec les efforts qu'on va devoir faire d'ici 3 ans.
Sauf que les 20 milliards, ne serait-ce que pour l'an prochain, vous n'avez pas de piste pour l'instant. Ça a été le coup de rabot, puis vous voyez les pistes qui circulent, c'est quoi? C'est transport, économie sur le transport sanitaire, le temps de travail des fonctionnaires, les indemnités journalières. Ça ne vous fait pas vraiment une stratégie de long terme?
Je vois le sourire narquois d'Emmanuel Lechypre.
Non, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ses propos. Il faut rappeler quand même qu'il sort un livre mercredi qui s'appelle La Voix française.
Alors un livre ou un programme présidentiel?
Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Alors c'est un livre qui d'abord dont le titre n'est pas neutre. Et d'abord, pour être, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il dit il faut mettre fin à l'État providence, etc. Son ambition, c'est pas du tout de dire le modèle français ça marche plus. On va vers un modèle à l'anglo-saxonne, etc. Lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que le meilleur modèle du monde, c'est le modèle français. Le problème, c'est qu'il ne fonctionne plus, qu'il prend l'eau de toutes parts, qu'il y a des gaspillages considérables, des inefficacités. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'aller vers un modèle anglo-saxon. Et ça n'est pas non plus d'aller vers un modèle plutôt scandinave. C'est vraiment le modèle français tel qu'il a toujours fonctionné. Simplement, il dit,
La troisième voie.
Mais ce qu'il dit, c'est que, c'est pas en raclant les fonds de tiroir qu'on ira chercher les 50 milliards d'économies.
Et pourtant, il ne propose que ça.
Il faut en finir avec la culture l'action politique, c'est dépenser plus. Et il dit effectivement aujourd'hui au niveau des collectivités locales. Mais
vous n'obtenez de la croissance en France qu'en dépensant plus. Vous n'obtenez de la croissance qu'en dépensant plus, Emmanuel.
Il faut arrêter avec ça. Donc ce qu'on en déduit déjà dans un premier temps sur un point de vue programmatique, c'est très clair. C'est effectivement une nouvelle réforme de l'assurance chômage, un nouveau durcissement des conditions donc d'indemnisation.
Ce qu'il a dit ce matin, c'était de raccourcir la durée d'indemnisation.
Oui, c'est ça. Oui. Sans de diminuer le montant.
Non, mais de durcir, grosso modo.
Oui, mais ça, on en parle de
un autre. Deux, très clairement, on va vers... alors, toute la difficulté, cher Audrey, je vous l'accorde, c'est est-ce que c'est ce qui nous attend pour la deuxième partie du quinquennat ou est-ce que c'est un programme? C'est encore assez flou. Alors, ce qui est très clair, c'est que le livre de Bruno Le Maire, c'est la fin du « en même temps ». C'est-à-dire que lui dit « l'État ne peut plus tout faire ».
Ça depuis combien de temps, Emmanuel?
Ah non, l'État ne peut plus tout faire. Non, l'État ne peut plus tout faire. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se recentrer sur l'éducation, la défense et la police et la santé. Et donc ça, c'est quand même la fin du en même temps. Ça veut dire que ce sera aussi la fin des prestations sociales sans plafond de ressources. Hein, c'est-à-dire qu'il y a très clairement tout un... C'est ce qu'il prend, il dit Bruno Le Maire. Est-ce que c'est bien le rôle de l'État de payer les mangas de tous les enfants de France? Est-ce que c'est bien raisonnable de rendre les transports en commun gratuits dans toutes les villes? Est-ce que c'est bien raisonnable de rembourser le Doliprane pour tout le monde, etc., etc.? C'est hausse d'impôts.
Et tout ça sans hausse d'impôts. Oui, mais non, donc ciblé.
Non.
Oui, mais aussi ciblé. Attention.
Vous comprenez très bien en le lisant que lui, ce qu'il a en tête, c'est l'augmentation de la TVA. C'est-à-dire, en gros, l'augmentation de la TVA qu'on n'a jamais réussi à faire, parce qu'il ne veut pas nouveaux impôts qui pèsent sur le travail. Et donc, le seul impôt qui pèse sur tout le monde, c'est la TVA.
Donc, c'est un chantier qui passe forcément par de la rigueur.
Exactement. Donc,
on diminue les prestations sociales, on fait une réforme de l'assurance chômage, donc qui ne touche pas non plus les plus riches. On fait une hausse de la TVA. Enfin, je veux dire, c'est pas gérable. C'est pas gérable politiquement. Je veux dire, c'est toujours les mêmes.
Prestations sociales.
Excusez-moi, mais.
On resserre les prestations sociales sur ceux qui en ont vraiment besoin. L'exemple qu'il donne dans le son sur les fauteuils roulants, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les prestations qui ne dépendent pas de vos conditions de ressources et que tout le monde touche sans qu'il en ait vraiment besoin, c'est avec ça qu'il faut aussi en finir.
Oui, non, c'est aussi
les taxis. Je suis c'est ingérable politiquement.
Non, c'est très compliqué. La réforme de l'assurance chômage, il dit même, il va encore plus loin, Thomas. Il dit ce matin, enfin, il l'avait déjà dit, mais il explique pourquoi. Donc, c'est à l'État de gérer l'assurance chômage.
Oui, nationaliser.
Donc, de nationaliser, parce que c'est pas aux partenaires sociaux de gérer le chômage au niveau national. Alors là, on va les entendre, parce qu'eux, ils disent, nous, c'est pas uniquement de gérer au niveau de l'entreprise, par des branches. Là, on voit bien qu'il a enfoncé le clou par rapport à toutes les discussions qu'on a pu avoir ici même.
C'est vrai, mais c'est quand même un pas de côté que Bruno Le Maire fait. Il dénonce un peu la droite classique à laquelle il appartient. Il dénonce ce modèle, ce logiciel super keynésien qui consiste en effet à penser que l'État peut tout payer.
On revient à une inspiration qui est plus proche effectivement de celle qu'on trouvait dans les programmes de François Fillon qui est plus d'inspiration libérale.
Il faut de son rival et
d'autres. Oui, mais là, il dessine un nouveau chemin.
Il refuse le mot libéral.
Thomas,
pour conclure là-dessus, est-ce que ces paroles dépasseront le stade du printemps et du verdict des agences de notation?
Oui, mais il faut
finalement,
quand même qu'il y ait des réformes de l'État, quand même.
Bien sûr. Oui, mais est-ce que vous lancez là-dedans
un deux flux?
Est-ce que vous lancez dans une réforme de l'État au milieu d'un quinquennat comme ça?
Oui, mais attends, mais quand est-ce qu'il a fait une réforme de l'État? Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a plus à faire.
On n'est que dans des flux.
La, 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 enfin, La seule raison pour laquelle on pourrait y croire, c'est qu'il ne reste plus que ça à faire. En fait, il n'y a plus d'argent pour baisser les impôts.
Ça se fait pas. Donc,
la seule chose que Bercy
veut
faire.
C'est un projet d'un quinquennat entier, la réforme de.
Bah, il reste trois ans.
Ça ne figure pas dans son ouvrage. Il n'en parle pas dans son livre.
Ah, bah là, tout ce dont on est en train de parler, de revoir le modèle social, c'est une réforme de l'État.
Ah oui. Enfin, il l'appelle pas comme ça, en tout cas.
Il l'appelle pas comme ça. Mais le fait est qu'il ne reste que ça à faire. Il n'y a plus d'argent pour baisser les impôts. Donc, soit on se tourne les pouces pendant trois ans à Bercy, soit effectivement, on enclenche. La simplification, c'est une réforme de l'État à bas bruit. C'est tout ça, ça va un peu dans ce sens-là, dans ce qu'on met dans le chapeau.
Il y a un point très important, du reste, qu'avait souligné, c'est le président de la République a souligné ça. C'est regarder notre absence de marge de manœuvre, fait que sur le théâtre ukrainien, on n'a plus d'argent. Absolument. Et donc là, on voit bien que la France, si elle veut avoir les moyens de ses ambitions, il faut qu'elle trouve de l'argent, donc il faut qu'elle se réforme.
Mais ça, c'est une des réponses à la question d'Audrey. Il était ministre des Finances depuis, et il a pas fait grand-chose. À sa décharge, il faut reconnaître que le monde a complètement changé. On n'est plus dans le même monde. C'est-à-dire que sur la défense...
C'est vrai pour le début du quinquennat.
Au début du quinquennat, le premier, même, on ne pouvait pas penser qu'on aurait ce sujet de défense. La hausse des taux d'intérêt, elle a quand même été extrêmement brutale. Donc l'environnement financier n'est pas le même non plus. Alors dans le livre, effectivement, il n'y a pas d'esquisse de pistes très précises. Etc. Mais ça viendra.
Mais alors, est-ce que vous allez l'inviter dans la librairie de l'Écho?
Bah oui, tiens.
Je pense que c'est plutôt un invité pour Edwige.
Viendra.
Ah, voilà. Quel gentleman, quand même.
Ouais. N'est-ce pas?
Comment il s'appelle ce bouquin qui sort à mercredi?
La voix française.
La voix française.
Petit. Et alors, d'ailleurs, pardon, qui va plaider demain à Berlin.
Oui, alors oui.
Demain matin, Bruno Le Maire est à Berlin à l'invitation des principaux médias allemands, devant patronat allemand et européen.
Il va faire de l'évangélisme, c'est ça?
Oui, bah pour justement vendre cette voix française. Il dit on a une Europe qui est malmenée. On a d'un côté des Américains protectionnistes et de l'autre des Chinois interventionnistes. Nous, l'Europe, on se cherche. On avait un modèle économique et social au XXe siècle, on l'a plus au XXIe. Et nous, quelque part, en France, on a peut-être trouvé la solution. Bon, c'est un peu arrogant de dire ça, mais c'est ce qu'il pense et c'est ce qu'il va aller plaider.
Enfin, Thomas, demain, il va surtout plaider pour l'union des marchés de capitaux.
Oui, bah, c'est une de ses propositions.
Oui, c'est ça.
Effectivement. Ce sera une de ses propositions.
Ils vont donner des leçons aux
Allemands. Non, mais ça, c'est un peu. Bon. C'est, mine de rien, c'est sans doute un des sujets les plus importants.
Les plus importants, c'est clair.
Je pense que chaque année, depuis 10 ans, au Cercle des économistes à Aix-en-Provence, j'anime une table ronde sur l'union des marchés de capitaux en Europe, que tout le monde se désole que ça n'avance pas, et il n'empêche, ça n'avance pas.
Peut-être que cette année, vous aurez l'occasion de faire quelques annonces.
Non, mais c'est très technique comme sujet, mais on ne soupçonne pas à quel point ce serait un levier considérable.
C'est sûr. Évidemment. Oui, mais pour ça, il faut un peu de courage. On va voir si Bruno Le Maire monte les muscles demain. Oui, tout à fait. Les agriculteurs qui font remonter la pression sur le gouvernement. La FNSEA a reporté une réunion qui était prévue demain à l'Élysée. Alors, elle ira quand même voir Gabriel Attal demain matin. Mais en tout cas, on sent que l'impatience monte à nouveau, ce qui pourrait aussi faire couler beaucoup d'encre. C'est ce qui va se passer ce jeudi au Sénat.
Oui, parce que jeudi, on va voter pour ou contre. Les sénateurs vont voter pour ou contre le fameux CETA. Vous savez, traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, texte qui risque d'être rejeté par la majorité LR. Et alors ça, vous avez écouté, ça mis hors de lui. Vous n'avez pas vu souvent comme ça. Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur, qui était ce matin sur BFM Business. Écoutez.
C'est un mauvais coup pour notre économie, pour notre souveraineté et pour notre agriculture. Et c'est hallucinant entre nous.
De ne pas le ratifier.
C'est hallucinant entre nous que la droite, les sénateurs de droite, alors beaucoup sont mal à l'aise et je ne renonce pas de les convaincre de voter le texte jeudi. C'est fou, sidérant que les sénateurs de droite s'allient avec les communistes sur un sujet économique et commercial et reprennent une partie de leurs argumentaires. Oui, c'est bon aussi pour notre agriculture. C'est bon parce que nos producteurs exportent et ont vu leurs exportations bondir depuis la mise en œuvre de cet accord.
Donc l'objectif est clair, éliminer la quasi-totalité des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. Mais l'enjeu est de taille, parce que je vous rappelle que les exportations françaises à destination du Canada sont passées de 3,2 à 4,2 milliards d'euros entre 2017 et 2023. Emmanuel Le Chypre.
Oui, mais il manque.
Edwige.
Non, mais beaucoup de. Ce que la question que je lui posais quand il était sur ce même plateau.
Ah oui, la semaine dernière.
C'est un manque de pédagogie. C'est besoin d'expliquer parce que il y a beaucoup de Français qui, comme on a dit non aux accords internationaux. Emmanuel Macron était le premier à dire non aux accords internationaux pendant la crise, la grande crise qu'on a connue il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on nous dit, il faut que le Sénat vote le CETA.
On dit non à celui du Mercosur.
Hein, on dit non au Mercosur.
Il a été voté il y a très longtemps, c'est ça.
2019.
Ouais.
Devant l'Assemblée. Alors, c'est pas passé au Sénat justement parce que le gouvernement savait que quelle que soit la composition du Sénat, ça passerait pas au Sénat.
Oui, puis il y avait la crise de la Covid. Oui. Et puis là, aujourd'hui, on va demander à des sénateurs qui sont des élus locaux, enfin, entre guillemets, si pardonne cette expression, mais enfin, c'est quand même ça. Donc, ils vont défendre les agriculteurs, les petits agriculteurs. Donc, c'est très compliqué. Je pense que la pédagogie, elle n'a pas été du tout suffisante.
Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va expliquer aux acteurs des filières laitières et viticoles quand on sait que cet accord avec le Canada a déjà rapporté 400 millions d'euros? Emmanuel Huchet.
Non, mais c'est le problème, il est plus finalement politique qu'économique. C'est-à-dire que la philosophie vis-à-vis de ces traités de libre-échange, elle a radicalement changé. Et, de tout temps, les traités de libre-échange, il y avait finalement tout un tas de secteurs qui étaient concernés. Il y avait des gagnants et des perdants. Mais au global, tout le monde était gagnant. Les deux parties étaient gagnantes. Là, c'est encore le cas. C'est encore le cas.
Alors, sauf ça pour dépend, les producteurs de viande.
Non, mais je veux dire, attendez, globalement, c'est très largement le cas.
Lui, il met en avant les fromagers, mais effectivement, les éleveurs bovins ne sont pas gagnants.
Oui, d'accord, mais la première difficulté, c'est que il y a toujours des gagnants et des perdants. Et c'est vrai que les perdants, c'est toujours un peu les agriculteurs. Il y a une anecdote dans le dernier livre d'Henri Guénaud qui raconte une rencontre entre Nicolas Sarkozy, président de la République, et le président de la Commission européenne de l'époque, et où le président de la Commission européenne dit à Sarkozy « Tu vas quand même pas, mettre en péril notre industrie pour quelques poulets. » Voilà, en gros, il lui dit ça. Et donc, effectivement, et ça, c'est vrai que la difficulté, c'est que c'est quand même toujours un peu les mêmes qui perdent. Et après, n'oubliez pas que l'agriculture, c'est quand même un univers qui est extrêmement vaste et varié. Rappelons qu'en gros, il y a un tiers des agriculteurs aujourd'hui qui vont très bien, il y a un tiers des agriculteurs qui vont pas trop mal, et qu'il y a un tiers des agriculteurs qui vont mal.
Les 400 000 exploitations.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les fromagers sont largement gagnants, les viticulteurs, vins et spiritueux, très largement gagnants. Je rappelle que c'est quand même notre deuxième excédent commercial, et que c'est quand même...
Non, c'est la cosmétique, maintenant.
Alors, mais effectivement... Et je rappelle que la viticulture, c'est le deuxième employeur des territoires en France après l'État. Donc c'est une filière qui a aussi.
C'est pour ça que c'est très important.
Et à côté de ça, vous avez
les éleveurs bovins.
Les éleveurs bovins qui eux sont pénalisés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de tout compromettre pour juste les éleveurs bovins? Moi, quand même, ce que dit Edwige sur les sénateurs, la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de sénateurs qui vont avoir aux fesses tous les agriculteurs qui profitent du CETA. Donc, c'est vrai que... Non, mais si la droite vote contre le CETA... Je veux dire, on aura été au bout du bout du renoncement de toutes les valeurs économiques de la droite. Ouais. Ah mais on peut pas. Je vois plus ce qu'on peut faire maintenant.
Attendez. Bon, moi je veux bien, mais c'est moi qui extrapole. Mais souvenez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron qui lui dit mais c'est fini, c'est la fin des grands accords internationaux. Je sais pas, le CETA c'est quoi? C'est un accord international, non?
Ouais.
Bah, alors, faut suivre le président.
Parce que sur le Mercosur, vraiment identifier les éleveurs bovins comme les grands perdants. C'est Macron contre Richter. L'accord Mercosur, c'est Volkswagen et grosse bagnole allemande contre bœuf argentin, en gros, c'est ça.
C'est vrai que par rapport au Mercosur,
c'est vrai que les Allemands sont très
le CETA est particulièrement plus qualitatif et sans comparaison bien plus intéressant que le Mercosur.
Bon, s'il n'y avait pas d'élection européenne, il n'y aurait jamais eu...
Oui, ça c'est sûr, clair, voilà. Mais en cas de feu vert, la France serait le 14e pays à ratifier le texte.
Mais si ce n'est pas ratifié, ça bloque tout au niveau européen, c'est accessoirement, voilà.
Oui, alors après, si le projet est rejeté, l'accord peut continuer à s'appliquer de manière temporaire.
Il y a déjà beaucoup de pays qui ne l'ont pas ratifié, et il est partiellement en vigueur.
Et partiellement. 95% des mesures sont déjà entrées en vigueur.
Oui, donc il est quasiment totalement.
Bien, on n'a pas le temps pour dire un mot des étoiles du Michelin, ça commence à tomber là. Chapeau bas pour. Alors, 3 étoiles d'un coup pour la réouverture de la table du Castelet dans le Var, le chef Fabien Ferré. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Ouais. Voilà pour les étoiles du Michelin qui tombent les unes après les
autres. Encore
Christophe,
une fois.
C'était Christophe Baquier avant qui était. Ouais.
3 de ce coup.
3 étoiles.
Bon. C'est inédit. Voilà, entre autres choses.
Vive le Castelet.
Vive le Castelet.
Bah oui.
Ça va susciter son lot de polémiques, de passions, et avec quand même des gros enjeux économiques derrière.
Bien sûr.
Bien sûr, on en parlera sûrement demain. Ouais.
C'est Alexandre Paget qui nous disait tout à l'heure, vous gagnez une étoile, c'est 80% de chiffre d'affaires en plus sur 3 ans, des réservations.
La question c'est si vous la perdez, est-ce que c'est 80% en moins? Pas toujours.
Non, mais
ça peut être une descente aux enfers assez rapide.
Il a perdu sa troisième étoile, tiens, du reste, est-ce qu'il la récupère?
Alors, Taïwan a perdu la troisième en 2007, donc n'a pas pu investir ce qu'il avait à investir. Il a perdu en 2019 la deuxième.
Guy Savoy, non.
Taïwan l'avait perdu en 2019 parce qu'ils avaient changé de... La règle en principe, c'est que quand vous changez de chef, vous perdez au moins un cran le temps qu'on mette à l'épreuve. Et qu'on teste le nouveau.
Bon. C'est sans pitié. Bien, merci à tous d'être venus ce soir. Emmanuel Le Chypre, Thomas Asporta, Edwige, à demain.
Martin. Demain, le patron de Chris, on parlera d'optique, on parlera de santé, on parlera de difficulté de prendre rendez-vous avec un ophtalmologue, pas, Thomas Asporta.
Ça dépend.
C'est du vécu. Et puis de relocalisation, parce que l'enjeu aussi, c'est de faire des usines en France.
Le patron de Chris, demain, 18h10, sur BFM Business. Merci beaucoup, 18h57. Nous reviendrons dans un instant, évidemment.
Oui, restez avec nous, on va parler de beaucoup de sujets. La rue, son économie florissante, mais pas que.
Et puis peut-être oui, encore des mauvaises nouvelles pour Atos, vous allez me dire, on radote, c'est tous les soirs. Oui, Airbus qui négocie depuis quelques semaines le rachat des activités Big Data et cybersécurité, ça se présente mal, ça pourrait même ne pas se faire du tout, on vous raconte ça dans un instant.
A tout de suite.
Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.